Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous continuons aujourd'hui, en compagnie de Flavien, notre étude sur l'Évangile de Marc. Pour commencer, Sandre va nous lire Marc chapitre 9, versets 14 à 29.
Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. « De quoi discutez-vous avec eux ?» leur demanda-t-il. De la foule, quelqu'un lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre. De l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince des dents. Puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. »
Jésus s'adressa à eux et leur dit « Peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. » On le lui amena. Mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol, de l'écume à la bouche. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » demanda Jésus à son père.
« Depuis qu'il est tout petit, souvent même l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. »«
Si tu peux, » répliqua Jésus, « tout est possible à celui qui croit. »
Aussitôt le père de l'enfant s'écria,
« Je crois, mais aide-moi car je manque de foi. »
Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais.
« Esprit qui rend sourd et muet, » lui dit-il, « je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. »
L'esprit poussa un grand cri, secoua l'enfant avec violence et sortit de lui. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient « il est mort !» Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, le fit lever, et celui-ci se tint debout. Jésus rentra à la maison. Ses disciples, qui étaient seuls avec lui, lui demandèrent alors
« Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit ?»
Jésus leur répondit
« Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. »
Merci et bonjour Flavien. Merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons appris que Jésus s'est rendu sur une montagne accompagné par trois de ses disciples. Là, ils vécurent des moments extraordinaires, quand Jésus leur révéla toute sa gloire.
Oui, et aujourd'hui, nous apprenons que les autres disciples que Jésus avait laissés au pied de la montagne ont été confrontés à quelques difficultés. Dans le village où ils séjournaient se trouvait un jeune garçon affreusement tourmenté par un esprit mauvais. Le père de l'enfant avait amené son fils auprès des disciples dans l'espoir qu'il le délivre. Toutefois, les disciples ne parvinrent pas à chasser le démon.
Et pourtant, Jésus avait accordé aux disciples l'autorité et le pouvoir de délivrer en son nom, me semble-t-il.
C'est exact, Yann. Nous lisons en Marc, chapitre 6. Jésus envoya ses disciples en mission, et effectivement, il leur accorda dès ce moment-là ce pouvoir. De plus, dans ce même chapitre 6, nous apprenons que les disciples avaient réussi à délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise du mauvais esprit.
Qu'est-ce qui a alors changé entre-temps? Pourquoi les disciples ne parviennent-ils pas à délivrer ce garçon?
C'est une question difficile. Certains commentateurs pensent que l'esprit qui dominait ce garçon était bien plus fort ou résistant que les autres. Mais cette suggestion ne me convainc pas.
Pourquoi?
Eh bien parce que lorsque Jésus arrive et qu'il prend conscience de la situation, il est plutôt exaspéré. Il s'exclame « Peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ? Il reproche aux gens et aux disciples leur manque de foi. Puis, plus tard, quand les disciples l'interrogent, lui demandant pourquoi ils n'ont rien pu faire pour cet enfant, Jésus les reprend. Il leur dit « Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. » À mon avis, ce n'est pas la puissance des mauvais esprits qui a changé, mais plutôt l'attitude des disciples. Car s'ils n'avaient pas réussi à délivrer ce garçon, tout simplement parce que cet esprit était trop fort, il aurait été alors injuste que Jésus leur reproche quoi que ce soit.
Quel est donc le problème ? En quoi les disciples ont-ils changé depuis le chapitre 6 ?
En considérant ce que Jésus leur dit, des esprits comme celui-là, on peut les chasser par la prière, je me demande si les disciples n'ont pas tout simplement oublié de prier. Ont-ils négligé la prière ? Se sont-ils enorgueillis ? Se sont-ils imaginés qu'ils détenaient eux-mêmes le pouvoir de chasser les esprits, que leur propre force était suffisante ? Aucun homme ne peut s'attaquer de lui-même aux esprits. Les disciples avaient reçu de Jésus une autorité qui se manifestait par la prière. Elle s'exerçait lorsqu'ils dépendaient de leur maître et qu'ils s'appuyaient sur lui. Par la prière, les disciples exprimaient leur confiance et leur soumission à Jésus. Par la prière, ils recevaient sa puissance, la seule puissance capable de chasser les esprits.
Merci Flavien pour ces réponses. Mais que pouvons-nous apprendre de ce récit ?
Eh bien d'abord, ce récit offre un formidable espoir à tous ceux et à celles qui sont tourmentés à cause de l'emprise d'un ou de plusieurs esprits mauvais. Jésus est Seigneur. Il est puissant pour délivrer. Les esprits peuvent sembler redoutables, mais Jésus est bien plus puissant encore. Aucun esprit mauvais ne parvient à résister à son autorité. Lors de notre lecture de l'évangile de Marc, nous avons observé à plusieurs reprises Jésus venant au secours de personnes esclaves, liées par toutes sortes d'esprits. Or, tous ces récits, sans exception, décrivent des délivrances, relatent des victoires et offrent un immense espoir. Toutefois, je voudrais m'attarder sur une autre leçon importante qui se dégage de ce récit.
Et quelle est-elle ?
Tout comme les disciples, nous avons cette fâcheuse tendance à négliger la prière et à croire que nous pouvons tout entreprendre seuls, de nos propres forces. Trop facilement, nous nous imaginons que nous pouvons nous débrouiller seuls, sans Dieu. Cependant, le jour viendra où nous serons peut-être confrontés à un échec. Cet échec, alors, il faut l'espérer, nous rappellera à l'ordre. Il nous aidera à rechercher Dieu et à dépendre entièrement de lui. S'attendre à Dieu, l'invoquer à travers toutes nos prières est essentiel, surtout si nous sommes engagés dans des combats spirituels. Lorsque nous sommes confrontés à des puissances spirituelles maléfiques qui se manifestent clairement, comme dans le récit lu, il devient alors absolument incontournable de rechercher le secours de Dieu. Mais il existe tant de combats spirituels où le secours à la prière est primordial. Et nous le négligeons juste parce que nous pensons pouvoir tout surmonter sans l'aide de Dieu.
Mais quels sont ces combats ?
Et je pense aux diverses tentations qui nous environnent et qui cherchent à nous séduire et à nous conduire à pécher. Si nous croyons être suffisamment forts pour résister à ces tentations, alors nous nous exposons à un grave danger et nous risquons d'y succomber un jour. Si nous nous sentons attaqués par de mauvaises pensées, enclin à pécher, nous devons nous tourner vers Dieu dans la prière. Nous devons lui exprimer notre besoin de lui, de son secours, afin de tout surmonter. Voici un autre exemple. Le chrétien est appelé à faire des progrès dans la sanctification. Mais qu'est-ce que la sanctification ? C'est le chemin sur lequel le chrétien se débarrasse progressivement du péché qu'il accapare pour ressembler davantage à Jésus-Christ. Ressembler à Jésus ? Quel défi ! Et nous n'y parviendrons jamais, si nous croyons y arriver tout seuls, par nos propres forces. La sanctification est une lutte spirituelle, et nous pouvons faire des progrès seulement dans la mesure où nous prions pour cela, et que nous exprimons à Dieu notre besoin de lui.
Merci Flavien pour ce rappel important. Nous avons besoin de Jésus en toutes circonstances et en toutes choses. Nous avons besoin de le prier, de l'invoquer, et si nous négligeons cela, alors nous nous mettons en danger et nous courons vers l'échec, tout comme les disciples dans le récit d'aujourd'hui. Mais avant de terminer notre émission, je voudrais orienter nos pensées vers un autre personnage qui apparaît dans le texte lu, le père du garçon affligé. En s'adressant à Jésus, il lui fait cette demande. « Je crois, mais aide-moi car je manque de foi. » Une autre traduction de la Bible traduit plutôt ces paroles ainsi. « Je crois. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Mais Flavien, est-il possible de croire et d'être incrédule tout à la fois?
Oui. Les sentiments exprimés par cet homme sont communs. Nous croyons en Jésus, mais il peut rester encore dans notre cœur des doutes, des interrogations. Nous sommes convaincus que Jésus est tout-puissant, qu'il est sauveur. Et pourtant, nous nous demandons s'il s'occupera bien de nos problèmes. Si souvent notre foi est faible et hésitante. Beaucoup de chrétiens ressemblent à cet homme. Voilà ce qui rend ce récit instructif et rassurant.
Pourquoi ?
Bien, malheureusement, certains peuvent mépriser ou critiquer ceux dont la foi chancelle. Toutefois, Jésus ne fait aucun reproche à cet homme. Il a reproché à la foule son incrédulité, et peut-être aussi l'incrédulité de ses disciples. Mais il ne reproche pas à cet homme son incrédulité. Jésus va même exaucer sa prière. Il va délivrer son garçon de l'emprise de l'esprit mauvais. Et cette réponse à la prière a dû fortifier la foi de cet homme. Il n'est pas nécessaire d'avoir une foi parfaite ou une foi forte pour obtenir une réponse à la prière. J'ajouterai aussi que malgré les doutes qui l'assaillent, cet homme avait une foi qui nous sert d'exemple aujourd'hui.
Expliquez-vous davantage, s'il vous plaît.
Et à la foi, c'est tout simplement se tourner vers Jésus, dans l'espoir d'obtenir le secours dont nous avons besoin. Cet homme se trouvait dans une situation désespérée, mais il savait où aller et vers qui se tourner, le Seigneur Jésus. Une personne incrédule n'aurait jamais rien demandé à Jésus. Le fait que cet homme s'adresse à Jésus prouve qu'il a une certaine foi. Ensuite, cet homme a une foi humble. Il n'a pas exigé de Jésus une réponse. Il ne lui a pas imposé sa volonté. Cet homme s'approche de Jésus avec humilité. Il lui soumet sa requête simplement. Il ne se trouve pas d'orgueil en lui.
Oui, je comprends. La foi de cet homme nous encourage à nous tourner vers Jésus, afin d'être secourus, car lui seul peut le faire. Merci Flavien pour votre participation aujourd'hui.
Merci Yann, au revoir à tous et à la prochaine fois.
Merci. Nous poursuivrons notre étude sur l'évangile de Marc la prochaine fois.
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.